France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous.
France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Effectivement, il est 6h sur France Culture, nous débutons avec l'information. L'information de ce lundi matin, et les conservateurs allemands ainsi que leurs alliés sociaux-démocrates au gouvernement ont cédé du terrain face à une forte poussée de l'extrême droite hier lors d'élections régionales. Élections qui se tenaient en Saxe et dans le Brandebourg, dans l'ex-Allemagne de l'Est. L'AfD arrive à chaque fois deuxième à quelques points de la CDU en Saxe et du SPD dans le bastion de Brandebourg. L'Allemagne encore qui, 80 ans après le début de la Seconde Guerre mondiale et l'invasion de la Pologne, présente ses excuses à Varsovie. Son président Frank-Walter Steinmeier a demandé hier pardon aux victimes. L'armée israélienne et le Hezbollah libanais ont échangé des tirs de missiles hier de part et d'autre de la frontière qui sépare Israël du Liban. Dans l'après-midi, le Hezbollah déclarait avoir détruit un véhicule militaire israélien. Cela a entraîné une riposte de l'armée israélienne qui assure que les tirs venus du Liban n'ont pas fait de victimes. L'ouragan Dorian a frappé cette nuit les Bahamas avec une force presque historique. Le phénomène météo est classé catégorie 5 sur 5. On ne sait pas encore s'il y a des victimes. Vous entendrez le Premier ministre bahaméen dans le journal de 6h30. L'actualité en France et les explications confuses de l'auteur présumé de l'attaque au couteau de samedi en gare routière de Villeurbanne. Cet Afghan présente des troubles psychotiques. Il a partiellement reconnu les faits. Un jeune homme, je vous le rappelle, un jeune homme de 19 ans est mort. 5 personnes ont été blessées. Leurs jours ce matin ne sont pas en danger. Et puis la rentrée aujourd'hui, les 12 400 000 élèves commencent à reprendre le chemin de l'école. Une rentrée marquée par la réforme du lycée que vont tester les élèves de première. Marquée aussi par l'instruction obligatoire dès l'âge de 3 ans. Zoom sur les accompagnants pour les élèves en situation de handicap. Ce sera dans le journal de 6h30 sur France Culture.
Informer, comprendre, chaque jour, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Je vous attends chaque jour de la semaine dès 7h pour 2h d'actualité, d'analyse et de commentaires en compagnie d'artistes, d'intellectuels et de journalistes de la rédaction de France Culture.
Les matins de France Culture, de lundi à vendredi à 7h et sur franceculture.fr. L'histoire, autrement, nouveau sur France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Cette semaine, dans le cours de l'histoire, nous avons le goût pour les civilisations perdues. Des Étrusques aux Phéniciens, en passant par Indiana Jones bien sûr, qu'est-ce que les grandes civilisations du passé disent de nous? Sans répit et avec plaisir, l'histoire suit son cours.
Le cours de l'histoire, cette semaine à 9h05 et sur franceculture.fr.
Allez, sur France Culture, les micros sont ouverts, il est 6h03 et nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
C'est donc la bonne nouvelle de cette rentrée littéraire, on en parlait déjà lundi dernier. Il y a de très bons premiers romans, des romans écrits par des jeunes auteurs qui dressent en filigrane le portrait de leur génération, mais pas seulement. Une jeunesse française entre crise sociale et misère sexuelle contemporaine. Et aujourd'hui, trois nouveaux premiers romans. D'abord, « J'ai des idées pour détruire ton ego » d'Alban Ligné, édité chez Nil. Il y a aussi le roman de Mathieu Palin, « Sale gosse », qui sort chez l'Iconoclaste. Et enfin, Aurore Lachaud qui sort son premier roman, qui a pour titre « Complément du nom » au Mercure de France. On va commencer par vous, Alban Ligné, et bonjour d'abord.
Bonjour.
Bonjour, donc Alban Ligné, votre premier roman « J'ai des idées pour détruire ton ego » est un roman sur une passion amoureuse au temps des sites de rencontres et du porno à portée de main. Une passion amoureuse où la colère et la vengeance vont se substituer très vite au désir inassouvi. Et une fois encore, c'est un portrait d'une jeunesse française populaire. « J'ai des idées pour détruire ton ego », Alban Ligné, un extrait de votre premier roman. 17h, soleil. À la fin du printemps, Châtelet est pris d'assaut. Des hommes, des femmes, des autres. Une flopée d'adolescents sur vêtements brillants en quête de potes. des potes de classe, des plans Tinder, Grindr, des inconnus, des solitaires. Léonie reconnaît une ex au bras d'un mec, gâchis. De lycéennes déjà titubantes à la recherche d'une paire de Nike. Un couple se retrouve après une dispute. La fille est trop maquillée. Ils surgissent des coins de rue et créent la masse. Des groupes se forment autour de la fontaine, une autre catégorie d'actifs. Elles fument ensemble contre un mur. Léonie, pensive en apparence, tire sur sa quatrième cigarette. Laure fait et défait sa natte blonde. La fin de leur service leur ayant rendu une liberté encombrante. Elles sont incapables de trouver une raison de partir. J'ai des idées pour détruire ton ego. C'est le titre de votre roman, Alban Ligné. De quoi parle-t-il?
Alors, mon roman parle de Léonie, sa protagoniste, qui a 27 ans et très peu d'ambition. Elle travaille au McDo la journée, elle est babysitter le soir. Elle garde la petite Lali, qui a 7 ans. Et Léonie ne rêve que d'une chose, c'est de retrouver son ex, Angela, qui lui a dit il y a 10 ans, à dans 10 ans. Donc Léonie attend ce jour qui approche. Même si elle n'est pas vraiment prête à partir, un jour, elle le doit, puisqu'elle retrouve la mère de la petite Lali morte dans sa cour d'immeuble. Et là, elle se dit, partons, prenons l'enfant avec nous. Mais les choses ne sont pas si simples, puisqu'on ne prend pas une enfant, même si elle est toute seule, comme ça. Et la police se met rapidement à suivre Léonie, qui tente de leur échapper et de retrouver Angela en partant dans ce grand road trip de Paris au sud de la France. Léonie, c'est un peu cette personne qu'on peut être après des déconvenues ou juste une grande paresse. C'est une fille qui pense aux choses faciles, qui pense à baiser, à boire, à fumer des cigarettes. C'est une fille qui n'a pas d'autre ambition que de se faire plaisir, qui n'a pas beaucoup de remords, qui ne pense pas aux conséquences de ses actes, mais plutôt au plaisir qu'elle peut en tirer immédiatement.
Et si on parle de son milieu, parce que vous le dites bien dans votre roman, Léonie décide de vivre sa vie en marge de la cellule familiale, de la société, le jour où elle découvre son homosexualité.
Alors c'est un peu plus tard, c'est là effectivement où les choses commencent, mais c'est là où Léonie découvre en effet qu'il y a une vie qui n'est pas celle de son milieu natal, une vie dans laquelle elle peut s'éclater et être plus originale, être plus dure, plus franche, plus drôle que dans ce milieu bourgeois dans lequel elle est née. Et c'est à ce moment-là, en découvrant tout le fun de la communauté queer, et tout, surtout à quel point ça peut être amusant d'être différent, c'est là effectivement qu'elle va s'émanciper complètement et atterrir au McDo.
S'émanciper et atterrir au McDo, ça marche pas ensemble, on est d'accord, Alban Ligné?
On est d'accord, c'est vrai que quand on veut s'émanciper, il faut avoir les armes nécessaires pour le faire. Si on est juste une fille qui se laisse porter et qui ne réfléchit pas beaucoup, comme c'est le cas de Léonie, ça peut mal se finir.
Mais c'est parti d'où, justement, cette envie de parler de ce personnage, de ce milieu?
C'est parti, effectivement, de cette envie de montrer qu'on peut s'affranchir des choses. Après, on le fait comme on peut. Léonie a quand même l'air de bien s'amuser, même si sa vie tourne un petit peu en rond. Et je voulais surtout parler d'une fille, voilà, qui suit ses envies, son instinct au jour le jour. Au départ, j'avais cette idée très précise de la babysitter qui n'aime pas les enfants et qui décide de...
C'est ainsi que s'ouvre votre roman, d'ailleurs.
Tout à fait. D'ailleurs, j'ai commencé par avoir cette première scène, cette première page de Léonie qui s'accorde un moment seule, alors qu'elle est au travail, finalement, et que l'enfant est juste à côté. Donc, je voulais... Voilà, c'était vraiment ce personnage dans la consommation, mais pas des biens de consommation, justement, dans la consommation des gens et des sentiments, qui me semble être assez proche de ce qu'on vit maintenant, où c'est vrai que c'est mal vu de consommer des objets. Mais du coup, il y a une forme de compensation avec les autres, les sentiments et la surenchère de sensations.
Mais enfin, elle enchaîne des aventures sans lendemain.
D'où cette surenchère. Quand quelque chose s'arrête, il faut reprendre quelque chose de nouveau, de plus excitant, de plus compliqué. Et c'est ce que Léonie fait, même si elle est quelque part assez fidèle à Laure, qui travaille avec elle, et qu'elle retrouve souvent. C'est vrai qu'elle n'est là que 3 jours par semaine chez elle. On est en droit de se dire que les 3 jours, 4 jours suivants.
Oui, mais elle la fuit.
Elle s'amuse.
Comme si elle fuyait le bonheur, comme si elle fuyait une vie plus épanouissante.
Mais oui, mais on remarque quand même qu'elle a cette forme de peur de la solitude et de l'inconfort qui la pousse quand même à retrouver des bras qu'elle connaît, à tel point qu'elle va même retrouver celle qu'elle a connue il y a 10 ans. Il y a quand même une vraie peur de s'engager dans quelque chose d'inconnu, si c'est pas juste pour une nuit, justement. Une fois que j'ai eu Léonie, j'ai eu toutes les personnes qu'elle avait fait souffrir malgré elles ou consciemment. Et leur histoire s'est nouée comme ça, les unes à travers des autres. Et ça m'a permis d'avoir ce roman choral qui dit toutes les frustrations et tous les désirs de ces personnages. Mais effectivement, tous ces personnages, ce que j'aime bien dans leur résignation, c'est qu'elles savent qu'elles sont responsables de ce qui leur arrive et que c'est de leur faute. Mais on les voit quand même essayer de se débattre un petit peu, d'avoir d'autres désirs qui sont immanquablement voués à l'échec également. Mais elles n'abandonnent pas vraiment. Elles essaient quand même de s'en sortir par les chemins les plus difficiles et frustrants possibles, mais elles essayent.
Et vous-même, Alban Ligné, au milieu de vos personnages, avec Léonie, ses amantes, ses amours, vous vous situez comment ? Plutôt comme une amie ? Plutôt comme une d'entre elles ?
Une alliée. Je me vois un peu comme, pas au niveau de la personnalité, mais Cassandre, qui aime bien retranscrire les choses par écrit. Cassandre, c'est un peu mon envoyé dans leur vie, qui retranscrit ce qui se passe, qui enregistre toutes les histoires, tout ce qu'il fait et se défait.
Et quelle est l'histoire de votre premier roman, ce roman qui sort donc chez Nil, J'ai des idées pour détruire ton ego?
Je l'ai commencé il y a 5 ans, c'était une version très courte, où on n'avait que 2 voix, celle de Léonie et d'Angela. Et Angela juste à la fin, et je l'ai fait lire à une amie qui l'a adoré, donc je me suis dit, ah, je vais lui en donner plus à lire. Donc je l'ai continué, et en continuant, je me suis dit, ah, mais pourquoi s'arrêter un livre qui n'est pas tout à fait fini finalement, donc j'ai continué à travailler. J'ai un très bon ami qui m'a aidé à travailler dessus, à l'enrichir, à voir mes écueils aussi. Et il y a un an, j'ai décidé de le faire publier. Je l'ai envoyé, Claire Docero a aimé le manuscrit, on s'est rencontrés et ça l'a fait.
Voilà, comme on dit. Qu'est-ce que vous faites dans la vie sinon, Alban Ligné?
Je suis scénariste. J'écris des séries.
Pour ?
En ce moment, beaucoup pour la jeunesse. Ce qui est assez marrant, quand j'ai dit à mon éditrice, en ce moment j'écris pour Oum le Dauphin Blanc, ça la fait rire. Quand on voit le contenu du livre, on ne s'attend pas à un changement de ton aussi quotidien. Je fais ça, j'ai aussi monté une bibliothèque itinérante à Paris, qui s'appelle la Bibliothèque Queer, qui a pour vocation d'emmener la culture littéraire queer à divers événements. Alors pour l'instant, ça reste beaucoup en Île-de-France, mais j'espère qu'on pourra bouger un peu plus. Mais bon, c'est pas mon métier.
C'est un acte militant pour vous d'écrire ?
Pas d'écrire dans le sens où ce livre ne contient pas vraiment de contenu militant. Il n'y a aucun des personnages n'est engagé dans une lutte, à part une lutte.
Ça, c'est le mot qu'on puisse dire, mais...
Oui. Mais effectivement, je pense qu'il y a quelque chose de militant, en fait, de faire publier, en tout cas, un livre où quasiment tous les personnages sont des femmes, où quasiment tous les personnages sont des femmes gays. Ça, je pense qu'effectivement, l'existence du livre a un côté militant plus que son écriture.
Le côté social est très présent avec les deux autres romans, celui de Mathieu Palin, Sale Gosse, que vous avez lu d'ailleurs, oui. Alban Ligné, et surtout celui d'Aurore Lachaud, complément du nom. Diriez-vous que votre roman à vous, J'ai des idées pour détruire ton ego, est aussi une manière de parler de la réalité sociale de la France d'aujourd'hui et de la crise qui touche les jeunes plus que les autres d'ailleurs?
Probablement de façon moins politisée, mais peut-être des crises qui sont plus internes, qui sont plus intériorisées aussi, qui sont celles du désir, de la difficulté à se projeter, que ce soit amoureusement ou socialement ou dans le travail. Donc c'est plus une crise de l'instabilité intérieure plutôt que de la société au sens large.
Et pourtant, il y a un rapport entre cette instabilité et l'instabilité politico-économique du pays ou du monde.
Exactement, je le traite du coup par le prisme du désir, plus que par la révolte ou l'état des lieux.
J'ai des idées pour détruire ton ego, d'Alban Ligné. C'est édité chez Nil. Oh, trois premiers romans qui a retenu notre attention, celui de Mathieu Palin-Salgos, édité chez l'Iconoclaste. C'est l'histoire de Wilfried, un gamin de 15 ans placé dans une famille d'accueil. Et c'est aussi, c'est surtout un livre sur ces héros anonymes qui travaillent au service de protection judiciaire de la jeunesse et qui tentent le tout pour le tout pour sauver ce qui peut encore l'être dans la vie de ces jeunes brisés par la vie. Bonjour Mathieu Palin.
Bonjour.
À la fin du roman, on devine pourquoi vous avez choisi ce sujet. Hein. C'est un sujet très intime, j'ai presque envie de dire. Vous avez vécu avec cette réalité-là, sans être un enfant placé dans une famille.
Non, j'ai eu, moi, au contraire, la chance de grandir dans une famille soudée, avec mes deux petites sœurs, mais surtout mes deux parents qui étaient là pour nous soutenir. Et c'est la grande différence avec les sales gosses qu'il y a dans le bouquin, c'est que le dénominateur commun, il est justement sur le fait que ces enfants ont, par la malchance, il n'y a rien d'autre que le hasard là-dedans, grandi dans des familles qui étaient dysfonctionnelles, parfois à tous les points de vue. Et là où je vous rejoins, c'est que mon père, lui, était éducateur, la PJJ, Protection Judiciaire de la Jeunesse. Et même s'il faisait beaucoup d'efforts pour pas ramener de boulot à la maison, on ne pouvait pas s'empêcher parfois, parce que les cas sont difficiles et que on ne peut pas les lâcher parce qu'il est 17h30 et qu'on rentre à la maison. Et de manière légère, on parle de « tiens, t'as oublié le pain, tiens, t'as oublié le liquide vaisselle ». Il y a forcément des prénoms qui reviennent et je l'entendais parler d'un David qui lui posait pas mal de problèmes, d'une Nadia. Et même si j'étais petit et que PJJ, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je comprenais que derrière, il y avait des situations très compliquées et des enfants perdus, quoi.
Extrait de votre roman, lu par vous-même, par l'auteur, Salgos, Mathieu Palin.
Ce qui vous serre les entrailles une heure avant d'être jugé par une cour de justice est bien supérieur au stress du tireur de pénalty. C'est une peur profonde qui donne envie de chialer. Au second procès, l'angoisse s'envole. Le décorum, les personnages, tout cela vous paraît familier. Les jeunes qui débutent dans la délinquance se repèrent facilement. Ils font les 100 pas avec une pochette cartonnée comme s'ils tournaient au centre commercial pour déposer des CV. Ces pochettes cachent des attestations de stage pour les stupéfiants ou la sécurité routière. Certains ont enfilé leur plus beau jogging, d'autres ont risqué la chemise aux manches bouffantes et la cravate de papa. Ceux-là portent des chaussettes blanches sur leurs pinces et font des triples nœuds à leurs chaussures cirées. Ils stressent dans le corps d'un autre.
Pour écrire ce roman, Mathieu Palin, Salgos, donc édité chez l'Iconoclaste, est-ce que vous les avez rencontrés, ces jeunes? Est-ce que vous avez rencontré tous ces Wilfried?
Ouais, ça a commencé en fait par un reportage, parce que j'étais
journaliste
à la Revue 21. Et la Revue 21 est une revue un peu à part dans le journalisme français qui permet à ces journalistes d'être en immersion pendant un temps assez long, un temps qui existe assez peu maintenant ailleurs.
Et qui donne de l'espace après.
Qui donne de l'espace en plus après pour raconter l'histoire, mais qui déjà laisse du temps pour comprendre ce qu'on regarde. Et moi, j'avais la chance d'être journaliste dans cette rédaction, et du coup, j'avais l'habitude de faire des immersions assez longues. Je devais rester un mois dans une équipe d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse à Auxerre, en Bourgogne, un milieu ouvert. Et finalement, je suis resté 6 mois. Donc au bout d'un mois, j'avais l'impression d'avoir eu la chance d'entreapercevoir une réalité. Mais j'avais rencontré plein d'enfants, plein de gamins déjà bien abîmés par la vie avant d'avoir atteint les 15-16 ans. Mais l'histoire centrale du livre, ce lien extrêmement fort qui se noue parfois entre un gamin qui n'a plus confiance en personne et qui voit débarquer par effraction dans sa vie un éducateur ou une éducatrice qui a décidé de le sauver alors que c'est pas son fils, c'est ça que je cherchais finalement, et j'ai mis un peu plus d'un mois à le trouver. Et quand j'ai rencontré Nina, qui s'appelle pas Nina dans la vraie vie, mais qui s'appelle Nina dans le livre, j'ai su à ce moment-là que ce serait un livre. Mais j'étais d'abord parti pour un reportage.
Ce que vous racontez à la fin de ce premier roman, Salgos, Mathieu Palin, alors que ce roman est extrêmement bien écrit, vous dites que ça vous a poussé à changer d'orientation professionnelle, que vous vouliez plus devenir journaliste, que face à des gens qui se sacrifient pour essayer de sauver ces gamins, vous avez voulu les imiter, vous impliquer d'une manière autre que l'écriture.
Enfin, je me substituerai jamais à ces gens-là. Leur mission, elle est de service public et ils la font vraiment de manière admirable. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre-là. C'est pour rendre visible, justement.
Et leur rendre hommage.
Après, je suis jugé parti dans cette histoire puisque, comme je vous l'ai dit, Mon père était lui-même éducateur et c'est d'une certaine manière une enquête sur ce qu'a été sa vie avant de m'avoir moi, puisqu'il a quitté après la PJJ quand j'avais 8-9 ans. Et j'avais besoin de savoir ce que ça avait été que ce boulot qui lui avait laissé des amitiés très fortes, qui étaient des éducateurs qui, comme lui, étaient rentrés à 20-25 ans dans des foyers, s'étaient occupés de délinquants et qui, par la force des choses, étaient devenus amis dans l'adversité, j'allais dire.
Qu'est-ce que vous a permis, justement, le roman que vous n'avez pas pu faire ou transmettre via le journalisme et l'article ?
Le roman permet une liberté totale, même en tant que reporter à 21, j'avais beaucoup de place et j'avais du temps, ce qui sont deux luxes formidables, mais j'avais quand même une contrainte qui est la contrainte déjà déontologique et puis la contrainte aussi même matérielle, c'est-à-dire que je suivais des gens, à un moment il fallait quand même que je les lâche et parfois c'était au moment où je les lâchais que les choses devenaient intéressantes, le moment où la personne que vous suivez toute la journée monte dans sa chambre et se met à pleurer, et ça je pouvais pas le raconter et ça je pouvais même pas l'imaginer, c'était interdit. Et pourtant, je savais parfois que c'était vrai. En étant complètement libéré de ces contraintes-là, s'ouvrent aussi d'autres barrières. Il y a d'autres verrous qui sautent et on se met à envisager un récit qui peut être aussi un peu un récit personnel. Il y a des choses que je mettais pas dans mes reportages parce que c'était des choses personnelles, notamment cette histoire un peu particulière que j'ai vis-à-vis de la PJJ, que j'ai pu, moi, là, intégrer et recreuser même l'histoire de mon père et de ses amis et de tout ce qu'ils avaient vécu, eux, dans une PJJ qui est plus exactement celle d'aujourd'hui, qui était celle des années 90.
Sale gosse de Mathieu Palin, édité par l'Iconoclaste.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et puis enfin, pour terminer notre sélection des premiers romans de la rentrée, un roman coup de poing radical social, comme les deux premiers, avec une histoire poignante. Complément du nom d'Aurore Lachaud aux éditions Mercure de France s'ouvre sur la mort du père de la narratrice, un homme élevé dans le respect des valeurs du travail, qui a été souvent humilié par ses supérieurs. Et lorsqu'il meurt, aux obsèques, la fille, elle croise la DRH de la grande entreprise qui employait son père et qui est venue, comble du cynisme, rendre un hommage officiel. Et là, la narratrice, elle s'appelle comme vous d'ailleurs, Aurore, lui crache à la figure, elle lui crache toute sa haine à la figure.
Oui, j'entendais mes confrères et consoeurs parler de peut-être de ce que permet la littérature, c'est aussi de raconter le père qui raconte des histoires, de se saisir de la violence du monde, de la raconter, et je crois que la littérature effectivement permet ça, c'est-à-dire de peut-être retravailler avec les mots tout un ensemble de situations que l'on peut vivre ou en tout cas qu'on peut renverser. Et oui, cette scène effectivement, et tu proposes une sorte de renversement peut-être d'une violence qui s'abat particulièrement dans un contexte, enfin en milieu de funérarium, je dirais. Vous faites référence à ce passage-là, oui. Oui, voilà ce que permet la littérature, oui, par exemple, de renverser ça, oui.
En revanche, vous, Aurore Lachaud, vous êtes très militante, hein. J'ai préféré vous laisser à la fin parce que dans le roman d'Alban Ligné, la crise sociale, elle est là, mais on a l'impression que les personnages ne veulent même pas se battre contre ce fait accompli. Dans Sale gosse de Mathieu Palin, il y a des gens qui s'impliquent pour essayer de changer ce monde. Dans votre roman, la narratrice, elle a envie de tuer tout ce monde.
je dirais pas du livre que ça relève du militantisme. Je pense que ça relève. Alors s'il y avait vraiment un militantisme derrière, ce serait celui
de la colère.
La colère, oui, mais au sens vraiment de la fureur latine, quoi. L'inspiration, là, c'est ça, c'est la fureur latine, quoi. Oui, l'inspiration colère. Mais il y a pas de militantisme là-dedans. Enfin, moi, je sais pas. Je pensais à Albert Cosseri qui peut-être rétablit une sorte de fantaisie. C'est plutôt ça. C'est plutôt un militantisme. Je sais pas, une sorte de fantaisie dans la contre la violence peut-être, ou en tout cas voilà, une sorte de décalage par un
mais
humour,
le fait de décrire,
c'est pas militant pour le coup,
même quand ça dénonce les conditions de travail, la logique économique des entreprises d'aujourd'hui, cette machine à broyer des hommes et des femmes.
Oui, mais ça passe par des biais. C'est toute la différence, je crois, entre un texte comme celui-ci et puis un pamphlet ou je sais pas ou un tract. Ça relève pas du tract ici. Tout est dit, je pense, enfin j'espère en tout cas, par le biais de la narration, de situation qui effectivement il y a une portée peut-être politique. Enfin effectivement, c'est ce que disait aussi Alban, mais ou Mathieu d'une autre manière. Mais disons que peut-être simplement le fait de raconter le monde du travail, c'est peut-être déjà effectivement quelque chose de, alors je sais pas, qui relèverait du militantisme, non, en tout cas d'une sorte de, peut-être de quelque chose de politique, oui.
On va vous entendre lire un extrait de votre premier roman, Complément du nom, Aurore Lachaud.
Oui. À la fin de son histoire à lui, à mon père, il y a eu des appels téléphoniques. Sur la fin, il y a forcément eu une évaluation. Celle qui, je crois, intervenait en janvier, la fameuse rencontre. Le fameux appel de mon père qui m'annonçait qu'il allait être noté, qu'on allait éplucher son travail, qu'on allait lui balancer des courbes, des chiffres, des plus-plus, des moins là parce que racine carrée de sa mère la pute sur un diagramme, ou des gommettes rouges en PowerPoint digital, écran laser big plus 4 et retire cosinus puissance canard WC à ton salaire. Quand il m'appelait pour m'annoncer la rencontre avec un énième diplômé d'HEC pour qui un avion, c'était pas des boulons et de l'aérodynamique, mais un investissement offshore et un mois rallonge ou raccourci en anglais que tu dis en étant très sérieux et en croyant que ça recouvre vraiment quelque chose. Donc, quand mon père m'a appelé, il m'a simplement dit qu'il flippait, sans dire un mot.
Quel sentiment vous habitez, Aurore Lachaud, quand vous avez écrit ce texte, Complément du nom ?
Ce qu'on évoquait tout à l'heure ensemble. La fureur, je n'oserais dire le mystère aussi, quelque part. Les deux, pour reprendre René Char, mais fureur et mystère, je pense. Fureur de... je pense que le titre en est porteur aussi. Il peut être lu de différentes manières, c'est vrai, mais non, c'est la première chose qui vient peut-être face à la mort de l'autre. Et qu'en faire ? Eh bien, écrire, s'en saisir, raconter quelque chose à partir de cette fureur-là, oui, comme je disais, voilà, la colère, l'inspiration, et puis tout reste. Alors, s'il y a des restes, autant en parler et puis en composer quelque chose à partir de la mort d'un père et de ce qui s'ensuit.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Aurore Lachaud ?
Je parle de mots, de littérature. Je fais partie de la secte de l'éducation nationale.
Tiens, mais ouais. Comme la narratrice.
Ah ouais, c'est drôle, hein.
Ouais.
Il y a de sacrés parallèles, non, dans la littérature.
Vous citez Beckett dans votre roman Complément du nom, Aurore Lachaud.
Oui. Bah oui, alors c'est rigolo parce que vous m'avez fait lire en plus un passage qui se termine sur l'absence de mots. Bah oui, s'il y a quelqu'un qui a bien travaillé le silence quand même, c'est bien lui. J'espère que le livre... Alors peut-être que le livre est beaucoup plus bavard que l'écriture de Beckett, mais oui, Beckett, ça fait partie des sources aussi d'inspiration qui... Je crois que je cite Premier amour, la scène où le passage où le narrateur comprend en fait que bye bye la maison du père en fait, que c'est terminé tout ça, et il le raconte simplement par un empilement de carton, et il comprend que c'est fini en fait tout ça, et c'est dit de façon absolument c'est Beckett quoi, c'est quand même c'est un grand, et oui, avant d'écrire on est surtout des lecteurs, donc je suis surtout une lectrice en premier lieu.
De quel genre de littérature?
Je vous ai parlé de René Char là tout à l'heure, de Causserie, je vais découvrir aussi à la faveur de cette publication d'autres jeunes auteurs, donc ça c'est plutôt une vraie chance pour le coup, mais Beckett, Causserie, Duras, pas mal de des gens bien.
Vous allez continuer à écrire Aurore Lachaud?
Je continue déjà, avant même l'envoi du manuscrit par la poste, d'ailleurs. C'était un 22 décembre. Le 22 au soir, le manuscrit envoyé, je continuais déjà... comme dirait Beckett, il faut continuer. Moi, je veux continuer, à la différence de Beckett. Je veux continuer à écrire.
Quel sentiment ça vous provoque d'écrire, Aurore Lachaud ?
Une grande joie. Bah oui, c'est plutôt pas mal, non ? C'est quand même, on parlait de luxe tout à l'heure, c'est quand même un vrai luxe d'écrire. De pouvoir avoir justement de jouir de cet espace de liberté, parce que précisément par rapport au monde du travail, rares sont les espaces où on peut véritablement dire ce que l'on a envie de dire. La famille c'est compliqué, le travail ce sont des espaces contraints, donc la seule contrainte dans un livre ce sont les marges, enfin en tout cas voilà, on est à la marge aussi, donc de la joie bien sûr.
J'ai des idées pour détruire ton ego d'Alban Ligné, c'est édité chez Nil. Sale gosse de Mathieu Palin chez l'Iconoclaste. Et enfin, Aurore Lachaud pour Complément du nom. C'est publié par le Mercure de France. Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci.
Merci. Merci.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture, l'esprit d'ouverture.
Nouveau sur France Culture, la transition se conjugue au quotidien avec Hervé Gardette.
Réchauffement climatique, épuisement des ressources, érosion de la biodiversité, nous savons tous désormais à quoi nous sommes confrontés. Mais nous ne savons pas toujours quoi faire, ni comment. Pourtant, nos modes de vie sont en train d'être bouleversés par ce basculement. Tous les jours, dans les matins de France Culture à 8h45, je vous livre mes observations, mes réflexions et je vous fais part de mes lectures dans la transition.
Nouveau sur France Culture, la transition de lundi à vendredi à 8h45 dans les matins et sur franceculture.fr. Viva l'Orchestra. Participez à l'orchestre et au cœur des grands amateurs de Radio France. Pour la première fois, Viva l'Orchestra ouvre ses portes aux chanteurs comme aux instrumentistes pour tous de 7 à 97 ans. Avec l'Orchestre National de France et le Chœur de Radio France, préparez-vous à jouer et à chanter sur la scène de l'Auditorium de Radio France. Inscrivez-vous entre le 2 septembre et le 13 octobre sur maisondelaradio.fr. Viva l'Orchestra!
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Nous sommes face à un ouragan que nous n'avons, comme nous n'en avons jamais connu dans l'histoire des Bahamas. Voilà la déclaration inquiète du Premier ministre de l'archipel ces dernières heures. L'ouragan Dorian s'est abattu sur les Bahamas avec son lot de pluie torrentielle et de vents violents. L'extrême droite allemande gagne encore des points en Allemagne de l'Est, en Saxe et dans le Brandebourg. Elle est deuxième au régional qui s'y tenait hier. Nous rejoindrons notre envoyé spécial pour une analyse. Et puis dans ce journal, nous nous pencherons sur la rentrée scolaire. C'est aujourd'hui, lundi 2 septembre. Vous comprendrez pourquoi il manque encore des personnels accompagnant les élèves en situation de handicap. Des vents de plus de 300 km/h, un phénomène catastrophique selon les analystes américains. L'ouragan Dorian a donc frappé les Bahamas avec violence cette nuit. Le premier ministre de l'archipel a pris la parole, Hubert Minnis.
We're facing a hurricane.
Nous faisons face à un ouragan Dorian qui est le pire que l'on ait jamais vu dans toute l'histoire des Bahamas. Beaucoup ont choisi de rester chez eux, notamment dans l'ouest de l'archipel, et ont refusé de quitter leur maison. Je peux seulement leur dire que j'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'ils entendent ma voix et que Dieu leur vienne en aide. C'est probablement le jour le plus triste et le plus difficile de ma vie en m'adressant aujourd'hui au peuple des Bahamas. En tant que médecin, j'ai été entraîné à supporter beaucoup de choses, mais rien de cette ampleur.
C'était le Premier ministre des Bahamas, Hubert Minnis, traduit grâce à notre correspondant Grégory Phillips. L'ouragan Dorian se dirige maintenant vers les côtes de la Floride qu'il devrait longer d'ici demain. Les manifestants pro-démocratie hongkongais ont de nouveau tenté de perturber la circulation des métros ce lundi. Vêtus de noir, couleur emblématique du mouvement, ils ont bloqué ce matin les portes des rames dans quelques stations après un week-end marqué par de graves violences, des affrontements avec les forces de l'ordre toujours, alors que le mouvement anti-Pékin dure depuis 3 mois maintenant. En bref, encore ces échanges de tirs hier entre Israël et le Hezbollah libanais. L'armée israélienne a fait état de plusieurs tirs de missiles anti-char en provenance du Liban, précisant qu'il n'y avait pas eu de victime. Une riposte a été menée contre des cibles au sud Liban. Elle était attendue et elle est plus forte que prévu. La percée de l'extrême droite allemande en Saxe et dans le Brandebourg. Au terme de 2 élections régionales hier, si les partis traditionnels restent premiers, c'est le parti alternatif pour l'Allemagne, l'AfD, qui a engrangé de nouveaux électeurs. Il se place deuxième dans ces 2 Länder de l'ancienne Allemagne de l'Est, Ludovic Piétenu.
L'AfD confirme que ces deux régions sont bien ses bastions. Ce parti s'y installe comme deuxième force politique avec un gain de 11 points en 5 ans dans le Brandebourg avec 23,5% des voix et un gain de 18 points en Saxe à 27,8%. Sous-estimé par les sondages, l'AfD ne rate la première marche que de quelques points, 5 points derrière les conservateurs de la CDU qui gardent la direction de la Saxe et 2 points et demi seulement derrière les sociodémocrates du SPD qui restent encore le parti majoritaire dans le Brandebourg. Ces deux partis traditionnels que l'on disait rejetés y ont bien laissé des plumes, mais la crainte d'une victoire de l'extrême droite a remobilisé leur électorat ou a fait faire une sorte de vote utile à des électeurs tentés par d'autres forces politiques. On le voit bien dans les résultats favorables au SPD. A contrario, c'est le parti de gauche, Die Linke, qui subit de lourdes pertes dans cette ex-Allemagne de l'Est où il restait encore assez fort. Et puis les Verts, qui enregistrent depuis un an des résultats électoraux significatifs en Allemagne, ont progressé, c'est vrai, mais sans doute pas autant qu'ils auraient pu. Résultat, un statu quo dans ces deux régions qui devrait donner un tout petit peu d'air à la coalition entre conservateurs et sociodémocrates au pouvoir à Berlin. Une défaite de l'un ou l'autre de ces partis aurait sans doute fait chanceler dangereusement l'attelage gouvernemental autour de la chancelière Angela Merkel.
En Tunisie, la campagne pour la présidentielle démarre aujourd'hui lundi. 26 candidats sont en lice pour un scrutin très ouvert. C'est le deuxième depuis la révolution de 2011. Début de la campagne donc, et dans la foulée, les Tunisiens éliront leur nouveau parlement. Notons aussi ce refus. L'Union européenne ne souhaite pas renégocier l'accord de divorce avec le Royaume-Uni. Le négociateur en chef, Nicole Barnier, l'a dit hier. Cela renforce l'hypothèse d'un no deal, un Brexit sans accord prévu le 31 octobre prochain. Les opposants à cette idée au Royaume-Uni se préparent d'ailleurs à un bras de fer avec le Premier ministre Boris Johnson. Ce sera dès demain lors de la reprise des débats au Parlement. Les vacances sont terminées en France pour près de 12,5 millions d'élèves. C'est la rentrée aujourd'hui. Et reviennent avec elles les interrogations, les tensions face aux réformes du gouvernement. En ce 2 septembre, l'instruction est obligatoire dès 3 ans. La réforme des lycées touche les élèves de première sous les critiques des syndicats d'enseignants, critiques également cette année face à la prise en charge des élèves en situation de handicap. Ils seront 361 000, soit 23 500 de plus que l'année dernière. 4 500 accompagnants appelés AESH ont été recrutés pour aider ces élèves. Mais il restera des manques d'effectifs, précise Stéphane Crochet, il est secrétaire général du SEUNSA.
Pour cette rentrée, des modifications sont en effet en cours, mais enfin les choses ne vont pas si vite. Et les conditions de travail, et tout particulièrement de rémunération des accompagnants, est un sujet sensible. Donc il va avoir du mal à recruter des accompagnants. Et donc on aura en cette rentrée des difficultés comme on en connaît chaque année. On a vu là, dans des écoles, dans des établissements, des accompagnants prendre contact. Fin juin, début juillet, ils étaient recrutés pour début septembre. Et puis dans l'été, ils ont trouvé un autre emploi, un emploi à temps plein, rémunéré à temps plein, eh bien, les raisons économiques font qu'ils ont appelé dans l'été pour dire que non, ils ne seraient pas là à la rentrée, donc les procédures de nouveau recrutement sont en cours.
Sans parler du manque de formation, très souvent des enseignants qui ne sont pas toujours prêts à recevoir des enfants en situation de handicap.
Quand on dit enfants en situation de handicap, on utilise une seule expression pour une diversité de cas et que la formation dans l'absolu, elle ne peut pas exister, on ne peut pas être formé à accueillir tous les handicaps. Et donc c'est bien pour ça qu'il faut au plus vite un accompagnant, c'est pour ça qu'il faut ensuite assez rapidement avoir cette formation pour mieux comprendre comment répondre aux besoins de cet élève qu'on accueille dans l'école.
Des propos recueillis par Hakim Kasmi que nous retrouverons tout au long de la matinée. En ce jour de rentrée scolaire. Nous y reviendrons aussi avec Jacques Munier dans son journal des idées. Ce sera après cette édition. Une centaine de militantes du collectif Nous Toutes se sont rassemblées hier soir à Paris, place du Trocadéro. Elles dénoncent le 100e féminicide de l'année en France, alors que s'ouvre demain un Grenelle destiné à lutter contre les violences conjugales. Samuel Monod était présent lors du rassemblement hier.
Chantal, Isabelle, Chérine, Taïna, les noms de ces victimes de féminicide en 2019 affichés tristement par la centaine de militantes présentes au Trocadéro. Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, veut débloquer 1 million d'euros pour le plan d'urgence contre les féminicides, insuffisant pour Caroline Dehas du collectif Nous Toutes.
C'est totalement à côté de la plaque, on a besoin de beaucoup plus. C'est pas d'un million dont on a besoin, c'est d'un milliard. Moi je pense que Marlène Schiappa elle est volontariste, mais quand on veut faire bouger un pays comme la France avec 60 millions de personnes, c'est pas uniquement la secrétaire d'État à l'égalité qui doit se mobiliser. C'est le Premier ministre et le Président de la République.
Également, le gouvernement lance un Grenelle des violences conjugales qui démarre ce mardi jusqu'au 25 novembre. Selon Iseline, militante féministe, c'est une simple opération de communication.
La vérité, c'est que les dispositifs de lutte contre les violences faites aux femmes, ils existent. On a des ordonnances de protection, on a un système de dépôt de plainte, on a des places d'hébergement, alors il n'y en a pas assez.
Et surtout, selon le collectif Nous Toutes, le problème des violences faites aux femmes doit être pris à la source. Sandra, une autre militante.
La police n'est pas formée, elle ne prend pas les
les plaintes ou elles refusent d'appliquer des ordonnances de protection. On aimerait surtout qu'il y ait des actions en amont.
Des actions en amont, comme la mise en place d'un brevet de la non-violence dans les écoles ou encore un plan de formation obligatoire pour les professionnels au contact des femmes victimes, notamment chez les policiers et les juges.
L'attaque à l'arme blanche qui a fait un mort et 8 blessés samedi à Villeurbanne est le fait d'un homme non fiché, apparemment psychotique selon le procureur de Lyon. Il ne semble pas, a-t-il ajouté, il ne semble pas lié à une organisation terroriste. L'agresseur est en garde à vue, c'est un ressortissant afghan. Les nouveaux taux d'imposition ont été distribués. Cela a d'ailleurs déjà été appliqué par certains employeurs, faisant ainsi baisser ou augmenter les salaires nets d'impôts. Le taux a été adapté en fonction des salaires pris l'année dernière, mais il peut encore être changé par chacun à l'enjumer.
Le 1er janvier dernier, au moment de la mise en œuvre du prélèvement à la source, votre taux a été défini sur la base de vos revenus 2017. Grâce à votre dernière déclaration de revenus, celle faite au printemps dernier, le taux a pu être recalculé. C'est désormais l'année 2018 qui sert de référence. Mais ça ne vous a pas échappé, nous sommes en 2019 et donc vos revenus ont pu encore varier d'une année sur l'autre. Si vous gagnez significativement moins qu'en 2018, vous pouvez demander à ce que votre taux soit abaissé. Une demande qui s'effectue sur Internet, c'est le plus simple. Ou si vous n'y avez pas accès dans votre centre des impôts. Alors attention, pour pouvoir faire cette modification, il faut qu'il y ait un écart d'impôt d'au moins 10%. Tout se passe entre le contribuable et le fisc. Ensuite, le nouveau taux sera transmis de manière dématérialisée à votre employeur et pris en compte sur la paye du mois suivant ou du mois d'après, selon la date à laquelle a été faite la demande. S'il y avait une erreur ou un questionnement sur le taux, c'est bien l'administration fiscale, on le rappelle, qui doit être sollicitée.
Quelques mots de la météo. En ce lundi matin, le soleil va s'installer sur tout le pays dans une ambiance encore un peu fraîche avec 17 degrés à Rouen, 18 à Lille, 19 à Paris, 20 à Bordeaux, 28 à Nice ce matin. Il est 6h40, vous écoutez France Culture. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Vous nous avez rejoint pour votre journal des idées et c'est donc la rentrée scolaire pour les élèves accompagnés des enseignants, personnels éducatifs et administratifs. Et chaque année, Jacques, c'est l'occasion d'une réflexion sur le modèle éducatif.
Et oui, le mensuel Sciences Humaines publie un grand dossier sur le sujet, Réussir à l'école. Héloïse Lérété, qui l'a coordonné, rappelle que de la sociologie aux sciences cognitives, tous les champs de l'éducation instruisent la même question, qu'est-ce qui fait réussir ou échouer les élèves? La sociologie porte plutôt la focale sur le poids du milieu social, les psychologues s'intéressent aux ressorts personnels de la performance, motivation, persévérance, confiance en soi, affectivité. Les cognitivistes prétendent décrypter les circuits neuronaux de l'apprentissage, les pédagogues mettent l'accent sur le rôle et les méthodes de l'enseignant. Et elle relève l'émergence de problématiques très concrètes au croisement de ces différentes disciplines, comment transmettre le goût de l'effort ou nourrir la confiance en soi et la persévérance par exemple. Martine Fournier a fait le tour de la littérature concernant la motivation, fruit de l'interaction entre des facteurs individuels, familiaux et sociaux. Elle est une dynamique qui se construit et se travaille. Pour les psychologues Edouard Dessy et Richard Ryan, il faut distinguer les motivations intrinsèques, le goût, la curiosité, des motivations extrinsèques, obtenir une réponse en faisant plaisir à ses parents. Selon eux, seules les premières conduiraient à un apprentissage durable. D'autres, comme Albert Bandura, mettent en avant le rôle de la confiance en soi qui stimulerait le goût du défi personnel. Le neuropsychologue Stanislas Dehaene identifie quant à lui quatre fonctions majeures de l'apprentissage, l'attention, l'engagement actif, le retour sur erreur et la consolidation. Un enfant actif, dit-il, qui se trompe apprend de ses erreurs alors qu'un enfant passif n'apprend rien. Antonio et Anna Damasio insistent sur le rôle des émotions positives qui nous guideraient dans la meilleure manière de satisfaire curiosité et plaisir d'apprendre, alors que selon la pédiatre Catherine Guéguen, la production de cortisol induite par le stress, lorsqu'elle est fréquente, attaque les neurones de l'hippocampe, région cérébrale essentielle pour l'apprentissage, la mémorisation et la régulation émotionnelle. Maëlle Vira, psychologue à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, relève à contrario que les comportements de soutien des enseignants, attention, encouragement, intérêt pour le point de vue de l'enfant, sont fortement associés aux manifestations de sécurité affective des enfants et constituent un puissant levier scolaire. Les enseignants auront été le principal sujet de la conférence de rentrée du ministre de l'Éducation nationale, Mouvement social oblige. Dans le grand entretien avec Jean-Michel Blanquer que publie l'hebdomadaire Marianne, il insiste sur la revalorisation du métier, notamment en termes de rémunération. Les profs français sont parmi les plus mal lotis dans les pays de l'OCDE, gagnant moins de la moitié que leurs collègues allemands et moins qu'aux États-Unis, au Japon, en Espagne ou en Italie. La paupérisation entame leur statut et leur crédit social et nuit par contre-coup à leur autorité. Le ministre aborde également la question de la formation des enseignants et il cite l'âme désarmée laissée sur le déclin de la culture générale d'Alan Bloom, où il relève des passages sur la France extrêmement intéressants puisqu'il décrit notre capacité à développer l'esprit critique par une fréquentation des grands auteurs. Jean-Michel Blanquer estime avoir opéré un rebond par la rigueur méthodologique imprimée dans les petites classes et dans les programmes de français au lycée, ce qui devrait rétroagir sur la formation des professeurs. Pour François Dubé, sur le site AOC, c'est le sort des exclus de la sélection scolaire qui, en se dégradant, a engendré colères et frustrations, affaiblissant sensiblement la confiance dans les valeurs démocratiques portées par l'école. Le sociologue observe que la longue période de massification scolaire ouverte au début des années 1960 n'a pas tenu toutes ses promesses, en particulier le postulat de l'égalité des chances et l'idée d'une éducation émancipatrice, développant l'esprit critique et élevant le niveau culturel de la population. Il suffit d'observer les succès de l'autoritarisme, du nationalisme et de la démagogie pour s'en convaincre, assène-t-il. Il dénonce les parcours de sélection qui constituent un mécanisme d'agrégation des petites inégalités. Son verdict, alors que les inégalités scolaires semblaient résulter directement de la structure des inégalités sociales, elles procèdent désormais de l'accumulation et de la répétition des petites inégalités entre les élèves. Selon lui, ce ne sont pas des leçons et des cours bien pensés qui suffiront à produire des citoyens éclairés. Les élèves doivent faire des expériences démocratiques, travailler ensemble, participer à la vie de l'établissement pour redonner un sens concret au slogan usé d'une communauté éducative. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Aujourd'hui, la transition politique en cours au Soudan sous l'angle du procès d'Omar el-Béchir.
Oui, alors que le nouveau gouvernement tarde un peu à se mettre en place, il devait être annoncé hier mais a été retardé. Quoi de plus symbolique pour ouvrir une nouvelle page que de solder les comptes du dictateur déchu? Il y a quelques mois encore, Omar el-Béchir semblait aussi indétrônable qu'au tout début de sa dictature en 1989. Mais la révolte populaire, d'abord pour protester contre la hausse du prix du pain, et finalement soutenue par l'armée, a eu raison de lui en avril. Procès symbolique aussi parce que depuis la mi-août, Omar el-Béchir est jugé seulement pour corruption. Bonjour Gérard Prunier.
Oui, bonjour.
Vous êtes historien, chercheur émérite au CNRS, spécialiste de la Corne de l'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est. Vous connaissez évidemment très bien le Soudan. Alors Gérard Prunier, merci d'être avec nous. Quelles informations avez-vous sur le procès en cours d'Omar el-Béchir, duquel nous, depuis son ouverture le 19 août dernier, on a vu des images, mais on ne sait plus rien.
Essentiellement d'une très grande confusion, parce qu'on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur le montant des espèces qui ont été trouvées dans la chambre de l'ancien président.
Parce que c'est ça qu'on juge aujourd'hui.
Oui, c'est pour ça qu'on le juge, pour acquisition illégale de devises étrangères. Or, les chiffres qu'on a varient de 300 000 dollars à 300 millions de dollars. C'est évidemment, on est dans une situation où tout le monde ment à tout le monde.
C'est vrai qu'on ne peut pas résumer ici 30 ans de dictature, et Omar el-Béchir dans ce procès n'est jugé donc que pour ses possessions de, cette possession de devises étrangères et corruption. Cet argent, même si les montants varient, alors c'est incomparable hein, les montants que vous nous annoncez, Gérard Prunier, mais qu'est-ce qu'on peut en dire sur la provenance? Il a déjà dû, Omar el-Béchir, commencer à s'expliquer auprès de la police et à citer des pays alliés, qui lui étaient alliés pendant son régime.
Oui, oh ben ça, c'est tout le monde le sait. D'ailleurs, le président lui-même, l'ex-président, l'admet. C'est de l'argent saoudien et ou émirati. Et quant à la manière dont il avait cet argent, ben ça, il faut remonter, je dirais, disons par exemple au XVIIe siècle en France, pour comprendre ce genre de choses. Aucune différence entre le budget et l'argent personnel du roi. Le roi représente le budget et vice-versa. Alors, si l'Arabie Saoudite donne à Omar el-Béchir 25 millions de dollars, parce que on a des traces précises à certains moments d'un avion privé atterrissant à l'aéroport à Khartoum avec 25 millions de dollars en provenance de Riyad, eh ben, on empile les billets dans la chambre du chef de l'État.
Et officiellement, c'est le budget saoudien, soudanais alors?
Oui, plus ou moins, on ne sait pas trop.
Est-ce que vous pensez, Gérard Pugnet, que ce procès soit en trompe-l'œil, que si Omar el-Béchir est jugé aujourd'hui à Khartoum pour corruption, c'est pour éviter qu'il ne le soit devant la Cour pénale internationale, cette fois pour des crimes de guerre, génocide au Darfour, comme l'en accuse la Cour pénale internationale qui a lancé contre lui un mandat d'arrêt il y a 10 ans, en 2009?
Oui, mais on a vu la totale inefficacité du jugement devant la Cour pénale internationale. Pendant des années, M. Omar el-Béchir s'est déplacé de manière internationale, bon, évidemment en évitant certains pays comme les pays européens ou les États-Unis, où il aurait été arrêté probablement, mais dans tout le restant du monde, il a circulé comme il a voulu. Donc on ne voit pas très bien ce qu'une inculpation devant la Cour pénale internationale pourrait apporter de plus.
En tout cas, personne ne peut l'obliger à s'y rendre ?
Non, et puis en plus, il y a un tissu silencieux mais extrêmement actif de gens qui veulent l'éviter, non pas pour lui, pour le sauver ou pour quelque chose comme ça, on sait que son régime est en voie de disparition, mais pour éviter eux-mêmes d'être pris dans les remous qui mettraient à jour leur propre corruption, leur propre complicité dans cet usage illégal. Enfin, dans la mesure où il y a encore une légalité qu'on puisse définir.
Alors, quelle serait, par exemple, dans la guerre civile au Darfour, où je rappelle que plus de 300 000 personnes ont été tuées entre 2004 et 2007, 2 millions de déplacés. Est-ce que les militaires impliqués aujourd'hui dans la transition politique seraient inquiétés si Omar el-Béchir devait aller devant la Cour pénale internationale? Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui sur leur rôle?
Bien sûr, et au premier rang, le plus puissant d'entre eux, M. Mohamed Hamdan dit Emeti, qui est soi-disant le numéro 2 du conseil militaire, mais en fait son véritable chef, et qui, toutes ces dernières années, était le chef des mercenaires du régime dans le Darfour, et qui est responsable de crimes, d'assassinats, de déportations massives, d'exécutions sommaires, et dont évidemment le nom remonterait à la surface. Enfin, il faudrait d'abord pour ça que ça ait quitté la surface, car il y est déjà.
Donc ça veut dire que ni le chef du conseil militaire de transition Abdel Fattah al-Burhan, ni son numéro 2, Emeti, comme vous le rappelez Gérard Prunier, ne sont aujourd'hui inquiétés par la justice et n'auront à témoigner ne serait-ce que dans ce procès où Omar el-Béchir est jugé pour corruption.
Peut-être auront-ils à témoigner, mais leur témoignage serait explosif. Et il y a toute chance que ça se termine par une série de mensonges emboîtés les uns dans les autres, puisque ces gens-là sont toujours au pouvoir.
Alors ces militaires qui, pour la première fois depuis des décennies, comme vous l'écrivez dans un article qui paraît ce matin dans Le Monde diplomatique, vont devoir partager le pouvoir avec les civils. Ce sont eux, les civils, qui dominent le Conseil souverain mis en place il y a 2 semaines et qui a 3 ans pour mener la transition et écrire une constitution. Est-ce que le nouveau Premier ministre Abdellah Hamdok a une autorité suffisante aujourd'hui pour pas laisser le Conseil souverain phagocyté par les militaires, les généraux, dont certains, vous venez de nous le rappeler, et pas des moindres, sont impliqués dans la guerre civile au Darfour?
Eh bien ça, on va le découvrir dans les jours qui viennent, et je pense que c'est là aussi qu'il faut voir la cause du retard de la mise en place du gouvernement, parce qu'il est évident que dans les coulisses, il doit y avoir de très forts débats sur la composition de ce gouvernement et sur ce que les gens vont remplacer. Monsieur Abdallah Hamdok, il est au-dessus de tout soupçon. Sa réputation est excellente, on sait très bien ce qu'il veut faire. Et c'est bien son problème, il veut vraiment pousser la transition jusqu'au bout du processus qui a été lancé en décembre 2018. Et la question, c'est, va-t-il y parvenir ?
Est-ce qu'il n'a pas regardé le Soudan d'un peu loin toutes ces années ? Il n'était pas au Soudan pendant qu'Omar al-Béchir régnait sans partage ou presque sur le Soudan ?
Justement, il a du Soudan probablement une trop bonne image. Il est probablement, et d'ailleurs c'est nécessaire hein, pour avoir le courage d'entreprendre ce nettoyage des écuries d'Augias, il a probablement une trop bonne opinion de ce qu'il est possible de faire. Je pense qu'il est en train de se heurter à une réalité extrêmement difficile.
Ouais, il faut dire qu'il a passé toute sa carrière quasiment à l'ONU et qu'il était basé très souvent en Éthiopie, à Addis Abeba.
Oui, ça veut dire qu'il n'était quand même pas trop loin du Soudan, mais il n'était pas sur place et il voyait ce que le régime était avec des yeux pleins de censure. Il avait d'ailleurs tout à fait raison. Maintenant, c'est à lui de faire disparaître les effets de cette censure sur la structure qu'il est maintenant censé gérer lui-même.
Vous parlez des blocages qu'il y a aujourd'hui et qu'il a, ce nouveau Premier ministre, à composer son nouveau cabinet. Quels sont les enjeux de représentativité de ce nouveau cabinet ? À quels équilibres doit-il être sensible et attentif ?
Eh bien, évidemment, le degré de confrontation qui va être entrepris entre la branche civile et la branche militaire. Or, c'est une sorte de contre-coup d'État au ralenti en permanence. Et c'est évidemment extrêmement usant pour les nerfs et je souhaite beaucoup de courage aux gens qui vont accepter les postes qu'on va leur donner.
Avec également un souci, non pas de parité, mais au moins de faire en sorte que quelques femmes soient présentes dans ce gouvernement. En tout cas, c'est ce qu'il a dit et annoncé. Et puis, représentativité aussi régionale, faire en sorte que les ministres viennent d'un peu partout au Soudan. Une dernière question pour conclure. Gérard Prunier, est-ce que les régimes qui étaient jusque-là proches d'Omar el-Béchir, vous citiez évidemment l'Arabie Saoudite, pourraient aujourd'hui acter du changement de donne politique et aider le nouveau régime en place pour se garder le Soudan comme allié ?
Ah ben, il est évident qu'ils vont essayer de tout saboter. Ça, c'est une certitude.
Pourquoi ?
Ils parviendront parce qu'ils veulent conserver le contrôle, parce qu'il y a une sorte d'axe qui va du Caire jusque chez eux et qui représente, on peut dire, l'anti-perspective du printemps arabe de 2011. C'est une tentative, disons, on pourrait dire, en employant du vieux vocabulaire européen et même français, contre-révolutionnaire. Et parviendront-ils à bloquer cette évolution tout en l'habillant de manière jolie pour que ça soit acceptable pour la communauté internationale, ou bien accepteront-ils ce changement ? J'ai beaucoup de doutes quant à leur capacité à accepter le changement.
Merci beaucoup Gérard Prunier d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheur émérite au CNRS, historien. Merci à vous.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
L'histoire, autrement, nouveau sur France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Cette semaine, dans le cours de l'histoire, nous avons le goût pour les civilisations perdues. Des Étrusques aux Phéniciens, en passant par Indiana Jones bien sûr, qu'est-ce que les grandes civilisations du passé disent de nous ? Sans répit et avec plaisir, l'histoire suit son cours.
Le cours de l'histoire, cette semaine à 9h05 et sur franceculture.fr. France Culture présente Art de Yasmina Reza. Ils sont trois amis, Marc, Serge et Yvan. Ils se connaissent depuis 30 ans, jusqu'au jour où Serge achète un tableau entièrement blanc. Il présente à Marc son acquisition, qui contemple l'œuvre et s'enquiert de son prix. Cette scène anodine est le point de départ d'un cataclysme entre les trois amis. Art au Théâtre Antoine à Paris, à partir du 11 septembre, avec Jean-Pierre Daroussin, Molière du meilleur comédien de théâtre privé, Charles Berling et Alain Fromager. Un partenariat France Culture.
Vous écoutez France Culture, il est 6h57. Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon.
Eh bien c'est l'heure de votre humeur du jour et comme c'est la rentrée des classes, votre humeur se demande si vous êtes un parent hélicoptère.
Eh oui, c'est la rentrée des enfants, mais surtout, et c'est une mauvaise nouvelle, la rentrée des parents hélicoptères. Alors peut-être ne connaissez-vous pas ce terme. Il est directement issu de l'américain, rien à voir avec une quelconque empreinte carbone des géniteurs. Il désigne plutôt les parents en vol stationnaire au-dessus de leur rejeton. Alors pour l'instant c'est une métaphore, hein, mais le cauchemar pourrait bientôt devenir une réalité puisqu'il est à peu près évident qu'on va bientôt trouver des parents pour suivre leur progéniture à grand renfort de drones. Les parents hélicoptères constituent la catégorie de parents qui s'endettent pour tout investir dans le surinvestissement scolaire. Sur le mode, tout se joue avant 3 ans. Les parents hélicoptères veulent tout contrôler, les mains, les devoirs, les amis, le cannabis que leurs enfants fument. Non, ça c'est pas vrai. Les parents hélicoptères feraient passer la pire mère juive pour laxiste. Et je rappelle que pour être mère juive, il est inutile d'être mère ou juive. Pour devenir un vrai bon parent hélicoptère, il y a quelques règles à suivre. La première, considérez que la vie de votre enfant, c'est la vôtre. Ne laissez personne franchir la barrière placentaire. Deuxième commandement, le pire qui puisse arriver à votre enfant, c'est l'autonomie. Troisième commandement, oubliez la gare de Perpignan, le centre du monde, c'est votre morpion. Enfin, et c'est la clé du quatrième commandement, Julie, le temps que vous ne passez pas à voler au-dessus de votre enfant, passez-le à voler au-dessus des autres parents pour voir comment ils font, épiez-les, comme le disait l'anthropologue Margaret Mead. La modernité en matière éducative, c'est lorsque l'on ne suit pas une tradition, mais lorsqu'on s'inspire des autres parents pour savoir comment élever son enfant. Dernière chose, vous vous demandez peut-être pourquoi on parle d'un parent hélicoptère et pas d'un parent avion. Eh bien parce que dans un hélicoptère, il n'y a pas de siège éjectable.